Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag en deuxième partie d'émission parce que nous sommes vendredi. Eh bien, nous aurons l'occasion, évidemment, de parler lecture avec Cyril de la librairie Calligramme de Cahors et les libraires indépendants du Lot. Mais dans un premier temps, si on partait se faire du bien avec un atelier de yoga qui vous est présenté par la librairie La Fourmi Rouge, et c'est maintenant dans le mag. Soyez les bienvenus, vous êtes sur CFM Cahors. Vous vous êtes souvent posé la question de savoir est-ce que le yoga est fait pour moi ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Parce que ça devient une tendance aussi, hein, tout ce qui est yoga, tout ce qui est zénitude. Alors est-ce que justement il y a un rapport ? On va le savoir avec cet atelier d'initiation que propose Angélique Garcia à la librairie de la Fourmi Rouge mardi prochain. Bonjour Angélique Garcia.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que en introduction, je disais le yoga, zénitude. Est-ce que c'est ça ou c'est plus que ça?
Ouais, on a tendance à l'assimiler au bien-être, à la détente, etc. En fait, le yoga dans la tradition et dans les textes, la lignée que j'enseigne, c'est issue des Yoga Sutras de Patanjali. Donc c'est des textes compilés, composés, qui ont environ 2000 ans. Et ils nous enseignent le chemin de la transformation avant d'atteindre l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire la libération, moksha en sanskrit. Donc en fait, le yoga, c'est une façon d'agir, d'être au monde, de réaliser ses actions et sa destinée. C'est développer notre capacité à focaliser, on dit, notre activité psychique dans une direction choisie, très exactement, pour que l'individu puisse s'établir dans sa véritable identité. Alors, voilà un petit peu le programme du yoga.
C'est marrant parce qu'on est toujours en train de parler de yoga pour se détendre, pour faire face au stress, retrouver des énergies, alors qu'en fait, on a l'impression que ça a une définition un peu plus spirituelle.
Ah oui, c'est carrément, ça agit sur tous les plans de l'être, que ce soit physique donc, par la pratique posturale, mais respiratoire, psychique, psychologique, spirituelle. En fait, c'est une pratique, alors pour rejoindre la notion de zen, bien-être, qui va vers la stabilité mentale. Donc c'est vraiment l'idée c'est d'adopter une nouvelle attitude, une autre attitude face à la souffrance qu'on peut vivre, aux événements, aux épreuves, aux expériences. Et c'est voir la vie et ce qui nous arrive dans la vie, les expériences avec un autre regard, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment, oui, cette dimension spirituelle. C'est une philosophie, quoi. Des fois, on a tendance à confondre avec religion, mais c'est une philosophie, un mode de vie, si on peut dire. Enfin, voilà, c'est...
Alors, est-ce qu'on aurait détourné justement la quintessence première, j'ai envie de dire, du yoga pour répondre à une demande peut-être, allez, je vais me lancer, peut-être plus mercantile?
Ben, c'est sûr.
Parce que c'est à la mode en ce moment, hein, le yoga.
Oui, oui, il y a une forme de, entre guillemets, business autour du yoga, dans le sens où en Occident, ça s'est énormément développé et tous les enseignements ne sont pas fidèles à la tradition, au texte et n'abordent pas le yoga avec cette quête spirituelle. Tout dépend, voilà, comment on le pratique, et même il peut y avoir un enseignant qui soit dans cette démarche-là et qui veut transmettre ça, et l'élève, il arrive avec ce qu'il est, ses besoins et sa sensibilité et son ouverture, il y adhérer ou pas, en tout cas, c'est pas une obligation, mais si on veut récolter les fruits du yoga, si on veut être dans la voie du yoga, voilà, ça nécessite une transformation et qui passe par là. Donc, on a de tout aujourd'hui, on a de tout au niveau des enseignements proposés, et c'est sûr que voilà, il y a aussi cette mode du yoga démonstration, quoi, du yoga performance qui peut-être cause un peu tort au yoga traditionnel, voilà, où on n'est pas dans cette recherche de performance du tout, quoi. On n'est pas pour, c'est pas du yoga Instagram, quoi. Voilà.
Alors, il y a un autre cliché que l'on a aussi du yoga, c'est celui d'être assis en tailleur et de pousser des aum. Ce que l'on sait peut-être pas, c'est que le yoga, c'est aussi une succession de mouvements et qui sont bonnes pour le corps, parce que mine de rien, ça fait travailler le muscle.
Ah oui, tout à fait. Ben, c'est les postures, ce que vous appelez les mouvements. Donc, on va chercher des postures en yoga, différentes postures, et qui sont, ce que je disais, ça agit vraiment sur tous les plans, et notamment physique. Et le yoga part du principe que par la posture et par le travail physique, on accède plus facilement justement à cette libération intérieure, etc. Donc, il y a un travail et puis respiratoire énorme par la posture et par la respiration, le souffle, le prana. On va vraiment chercher à déverrouiller des zones, à libérer des tensions, à détendre musculairement, à tonifier aussi, parce qu'on a souvent cette image du yoga qui est pas entre guillemets physique et qui est il y a certains hommes qui ont du mal à se rallier parce que ils ont peur de entre guillemets s'ennuyer. Alors que ça peut être, il y a des pratiques qui sont très toniques et très physiques. C'est très complet, quoi. Et en effet, donc oui, on travaille beaucoup le physique, ouais.
Et alors, autre cliché aussi que l'on a, décidément, le yoga, il y en a plein qu'il faut bouleverser. Les hommes n'en font pas trop parce que pour eux, c'est, alors excusez-moi du terme, je le mets entre guillemets, un sport de bonne femme.
Oui, c'est un cliché. Bon, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent au cours du yoga. Ça tend à.
Mais c'est fait pour eux. C'est fait pour eux aussi. C'est fait pour qui,
les premiers yogis, grands yogis et tous les enseignants, c'était des hommes. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer en Inde. Donc au départ, il y avait que des hommes qui pratiquaient le yoga. Et bon, moi après, je les invite à venir à des cours, à essayer le yoga pour voir. Moi, j'ai des hommes à la fin qui sont surpris et qui me disent c'est ok, c'est adapté, tout à fait. Et c'est pas genré, quoi. Le yoga, c'est une pratique pour tous. Et moi, je les invite à essayer pour se faire. Leur propre idée, pour ceux qui sont un peu réfractaires ou qui ont cette idée un peu reçue dans la tête.
Et pour ceux qui pensent que c'est pas fait pour eux, du fait de problèmes de santé, de problèmes musculaires, d'arthrose, qu'est-ce que vous leur dites?
Ben là, pareil, moi, ma formatrice me disait, il y a trois raisons pour lesquelles on peut ne pas pratiquer le yoga. C'est si on n'a pas envie, si on est dans le coma et si on est mort. En dehors de ces trois raisons, il n'y a pas de raison, valable de ne pas pratiquer le yoga. Il n'y a pas de contre-indication. Après, il y a des postures qui peuvent avoir des contre-indications suivant les douleurs, mais c'est comme dit aussi le yoga que j'enseigne, la lignée que j'ai choisi d'enseigner, c'est pas la personne qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à la personne. Donc, on peut toujours adapter, que ce soit avec des supports, briques, sangles, chaises, coussins, couvertures ou autres, ou aussi en désintensifiant les postures. C'est-à-dire qu'on peut désintensifier en proposant des variantes qui sont plus accessibles. Et moi, j'ai donné des cours dans des thermes avec des gens qui étaient vraiment avec des douleurs et des problématiques physiques importantes, et on faisait du yoga et ça a révélé même des intérêts. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et, il faut prévenir l'enseignant de ces problématiques en début, et puis après on adapte.
En tout cas, votre formatrice, c'est une phrase qui me fait bien rire, parce qu'effectivement, dans la question est-ce que c'est fait pour moi, là dans ces trois points, elle a tout répondu, ça c'est clair.
Ah oui, ben là, ouais. Avec ça, on a tout dit, ouais, c'est sûr.
Le mardi 15 février à 18h45 à la librairie La Fourmi Rouge, justement, vous proposez un atelier d'initiation au yoga avec grignotage indien et yogi tea. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le yogi tea, par rapport au tea anglais, par exemple?
Au British tea. C'est des infusions, en fait. Hein. Le mot thé n'est pas forcément adapté, c'est comme ça qu'il s'appelle. Là, c'est une marque de d'infusion
qui est très bonne d'ailleurs.
C'est des infusions ayurvédiques, donc l'ayurveda, médecine millénaire indienne. Donc il y a plein de plantes et qui sont bonnes, qui ont des vertus. Là, c'est manière d'être sur la même couleur toute la soirée, donc Voilà, mais je le connais pas en profondeur ce thé pour pouvoir en parler mieux. Mais...
Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour essayer. Hein. Il y a aucun engagement. Vous venez, c'est 10 € par personne. On vous fournit le matériel. Vous venez juste avec une tenue adaptée, hein, c'est-à-dire ne venez pas en jean, ça vous serait pas confortable. Et puis c'est à 18h45 à la librairie de la Fourmi Rouge. Et bah à vous de vous faire une idée si le yoga effectivement c'est fait pour vous ou pas. Voilà. Il y aura d'autres ateliers, j'imagine, d'autres choses que vous proposerez aussi, Angélique Garcia, dans votre fonction, puisque maintenant vous êtes au studio, enfin, vous avez un studio, j'ai envie de dire, à Cahors.
Ben, je donne des cours dans un studio rue Château du Roi à Cahors le lundi soir. Je vais peut-être ouvrir un cours le jeudi matin ou jeudi midi. Ensuite, je donne des cours à l'USESH le lundi matin et le jeudi soir. Je propose aussi des cours et ateliers individuels ou semi-collectifs, privés, particuliers, enfin à domicile, dans le sud du Lot. Et après, je fais aussi du yoga enfant et adolescent. Donc là, j'organise le 22 février, toujours rue Château du Roi, à 10h45, un atelier enfant-parents. Donc pour venir pratiquer en duo ou trio, s'il y a plusieurs enfants ou si un grand-parent veut se joindre. Donc c'est voilà, pratiquer avec des petits autour d'un album illustré, autour donc d'une histoire, le yoga des animaux, c'est ludique, c'est créatif, c'est joyeux et voilà.
Eh ben très bien et de ce côté-là et je sais pas si je l'ai dit mais il faut s'inscrire auprès de la Fourmi Rouge en tout cas pour l'atelier du 15 février et peut-être que ça vous donnera aussi envie de faire d'autres cours parce qu'on se sent vraiment bien avec ceci. Merci Angélique Garcia.
Eh ben merci Yannick.
Et puisque nous sommes week-end dans quelques instants, eh bien, direction la librairie Calligram, cette fois, pour les livres que l'on vous conseille pour cette semaine. Merci d'être avec nous sur CFM Cahors.
On avait gravé notre banc comme le font les gens heureux, avec un cœur et puis dedans, les initiales des amoureux. On ne peut rien y changer quand les amours s'en vont au vent, ne reste que les naufragés. Et pourtant, j'aurais bien aimé te voir avant que s'en vienne le printemps. Tu sais, j'ai le mal des grands boulevards. Et pourtant, j'aurais bien voulu te dire qu'on a autant de bons moments que j'ai de peine à partir. Et pourtant, il suffit de quelques secondes pour s'enfuir au bout du monde. Ce soir j'ai le vent dans le dos, c'est lui qu'attendent les gens peureux, lui qui fait siffler les bateaux et les rubans dans tes cheveux. Puisque le monde s'en fout pas mal de ce qu'on y fait dedans, c'est mon dernier tour de bocal. Et pourtant, j'aurais bien aimé te voir avant que s'en vienne le printemps. Tu sais, j'ai le mal des grands boulevards. Et pourtant, j'aurais bien voulu te dire qu'on a autant de bons moments que j'ai de peine à partir. Et pourtant, il suffit de quelques secondes pour s'enfuir au bout du monde.
CFM Cahors, le mag.
De retour dans le mag avec nos libraires indépendants du Lot, représentés aujourd'hui par Cyril de la librairie Calligram à Cahors. Salut Cyril.
Salut Yannick.
Cyril, grand fan de BD, de romans graphiques, de romans, de polars, et vous allez être gâté, si c'est votre cas, bah aujourd'hui c'est ça, c'est BD et polar. On va commencer par la BD, par une maison d'édition. Exactement. Que t'aimes beaucoup, les éditions Glénat.
Ouais.
Ça s'appelle Talion. Alors je vois pas trop.
C'est Sylvain Ferret.
La couverture est jolie.
La couverture, justement, c'est pour ça que je le présente, qui sera le premier opus en fait d'une trilogie. Et le premier s'appelle Racine. Pourquoi Racine ? C'est le nom d'un quartier en fait d'une cité. Alors on est dans un monde post-apocalyptique. Hein, c'est
ouais.
D'où la noirceur un peu ouais. du trait et de choses. On est dans un monde en fait un peu inventé, mais qui peut s'apparenter à une terre dans très 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 longtemps. Un effondrement écologique a eu lieu et ce qui fait que les humains ont été infectés par une espèce de maladie qu'ils appellent ça la vermine, qui a infecté l'eau, qui infecte toute la biodiversité et toutes les choses. Et en fait, là, on est dans un des rares bastions qu'il reste de l'humanité, qui s'appelle effectivement Foraine, et qui s'est construite sur les fondations, en fait, sur des ruines un peu antiques de l'ancienne civilisation, en sachant qu'on est un peu dans un monde post-apo, comme on dit, et où les riches et les pauvres sont séparés, comme d'habitude. Les riches vivent au sommet de la citadelle, et eux bénéficient, entre guillemets, d'une eau claire, de nourriture, de tout ce qu'ils veulent, et qui laissent effectivement la plaide dans les bas quartiers.
Ils se débrouillent comme ils peuvent.
Ouais, voilà, mais on est dans l'extrême toujours. Dans cette petite situation, on va suivre l'histoire de Billy, qui est une fille d'une noble, puisqu'on est revenu un peu à la notion de royaume et de noblesse, etc. Et qui, en fait, a une particularité, c'est qu'elle va décide d'aider, en fait, la plèbe, entre guillemets, en leur fournissant de la nourriture et des choses qu'elle va essayer de piquer, en fait, au sommet de la citadelle. Elle est aidée en cela avec sa mère, voilà. Donc en fait, ils font partie de cette petite caste en fait qui essaie quand même d'aider malgré tout. Et on va suivre l'histoire de Thaddeus, qui est un espèce de nomade un peu vagabond, qui lui en fait explore souvent les ruines un peu de l'ancienne cité pour essayer de découvrir l'origine de la vermine et d'essayer de trouver un moyen de guérir cette maladie.
Parce que c'est la maladie qui fait en sorte que c'est moitié humain, moitié zombie.
Voilà, entre autres, en fait, effectivement, c'est la nature qui se venge.
Ils ont plein de perfusions, ils ont.
Alors oui et non, parce qu'en fait, on est dans. Enfin, Sylvain Ferret en fait qualifie ça, son truc de cyberpunk gothique. Ah. Le gothique, on le voit bien avec le côté dessin et le côté très noir. Et cyberpunk parce qu'effectivement, pour les nobles qui malgré leur truc là. Malgré leur essai de protection un peu illusoire, sont un peu touchés par cette vermine malgré tout et donc sont obligés de se triturer cyber, le corps et voilà, de modifier le corps pour essayer de résister à ça.
Les cybermen.
Voilà. Et donc, effectivement, dans cette histoire, les deux vont se rencontrer, donc Billy et Thaddeus, et vont devoir essayer de comprendre, d'affronter en fait ce qui va venir, puisque dans le même temps, on va découvrir les petites malversations des nobles, justement, puisque le roi ou le seigneur en place, entre guillemets, qui est le seigneur Talion, d'où le nom du royaume dans lequel ils sont, et d'où le nom de la BD, va mourir, et effectivement, tout est en train de se placer pour essayer de récupérer le pouvoir. Donc, en gros, voilà, ça lance vraiment l'histoire. On découvre un monde qui est vraiment, que Sylvain Ferret maîtrise vraiment parfaitement, qui est très sombre, très sanglant, et en fait bourré de secrets. Et on va découvrir ces secrets au fur et à mesure, puisque chaque personnage va avoir en fait son lot de petites histoires et d'un passé chacun, et qui va s'entremêler sur trois tomes, nous fournir une histoire vraiment impressionnante. Le dessin est accrocheur, c'est juste magnifique. Il arrive à vraiment retranscrire cette sorte de grandeur et ce côté décadent en fait.
Même la couverture est magnifique.
Ouais. C'est pour ça que j'adore vraiment cette BD où je l'ai découvert. Je connaissais pas Sylvain Ferret, mais j'ai vraiment découvert cet auteur et c'est vraiment intéressant. J'attends vraiment le deuxième avec impatience.
C'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire si on lit le volume 1,
il y aura les trois et ce sera un par an comme d'habitude. Là, celui-là est sorti en janvier. Il faudra attendre janvier.
Et on a vraiment envie d'avoir la suite.
Oui, parce que voilà.
Il y a une fin quand même.
Il y a un petit épilogue, mais il y a un événement qui va faire que, comme dans toutes les trilogies, un événement de switch, de twist, qui va effectivement lancer la suite.
Quand ça finit, ça recommence.
Voilà, exactement.
Talion de Sylvain Ferret, aux éditions Glénat. C'est une BD, l'opus numéro 1 intitulé Racines, pour tout comprendre, et une BD qui va sortir sur 3 ans, si je comprends bien.
Exactement.
Et maintenant, on passe
Polar.
C'est un peu plus actuel. Ouais. La médium de JP, c'est comme
JP Smith. J'ai pas trouvé sur internet son nom et son prénom. Il se fait appeler JP Smith, même
d'accord.
Sur Wikipédia.
JP Smith. Alors.
Bon, bref, j'ai essayé de trouver. Alors, la médium, on est dans un polar assez classique, mais que j'ai trouvé très intéressant, entre le roman noir et vraiment le thriller. Un peu fantastique, mais sans plus. On va suivre l'histoire de Kit Capriole, qui est une jeune femme qui a perdu son mari lors des événements du 11 septembre, donc 2001, qui effectivement, et qui depuis, elle vivote un peu entre guillemets, mais surtout qui se retrouve un petit peu pris entre deux feux lorsque sa fille, en fait, témoin d'un accident dans le métro new-yorkais, va elle-même être victime de cet accident-là et va tomber effectivement dans le coma. Donc elle doit à la fois payer son loyer payer effectivement les frais d'hospitalisation de sa fille. Pour ça, elle est actrice de base et elle court un peu les castings. Et elle va tomber dans un autre petit boulot, elle va trouver un autre petit boulot, elle va devenir médium. Mais pas la médium avec des vrais pouvoirs, etc. C'est qu'elle va faire un peu comme la série Mentaliste, si quelqu'un a la référence. Elle va en fait, elle va essayer de noter les petites chroniques de nécrologie dans le New York Times, entre autres. Et elle va contacter les personnes pour les mettre en relation, mais de manière très, sans pouvoir magique, hein. C'est un peu de la manipulation et du mentalisme, comme certains l'appellent. Donc, effectivement, voilà. Et donc, elle arrive à joindre les deux bouts à partir de là. Sauf que, effectivement, un petit grain de sable va se mettre dans sa petite histoire. Les flics, en fait, la police new-yorkaise, va s'intéresser à son cas, justement, parce qu'il estime qu'elle fait des fraudes, en fait, qu'elle escroque les gens. Et donc, là, à partir de là, elle va rencontrer un policier et tout va partir en cacahuète. Et notamment parce que du jour au lendemain, elle va se retrouver avec des absences elle-même. C'est-à-dire qu'elle va avoir des moments où elle va perdre en fait le fil de sa vie et elle va commencer à se poser des questions. C'est d'où là, on rentre en compte le côté un peu fantastique, mais malgré tout, il y aura des explications. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que j'adore dans ce roman, c'est justement la relation elle avec les gens qui sont dans le deuil. Tout comme on l'avait dans une certaine mesure dans la série Mentaliste, où effectivement on découvrait qu'ils jouaient un peu du deuil des gens et de la malheur des gens. Et c'est toute cette petite relation et le fait qu'elle doit maintenir son emprise, malgré qu'elle sait qu'elle est mauvaise, entre guillemets, mais qu'elle est obligée parce qu'elle doit payer son loyer, elle a des charges dont elle doit faire. Et malgré tout, donc son côté effectivement gentil, elle doit le mettre de retrait pour essayer de le faire. Et ça va être tout ce petit jeu sur vraiment une échelle très fragile, sur une petite planche qui risque de craquer jusqu'au bout et jusqu'au dénouement final, on va découvrir plein de choses. C'est vraiment intéressant, je trouve qu'il a une petite. Il arrive à vraiment à rentrer dans cet équilibre fragile pour nous maintenir du spawn jusqu'au bout.
Et il n'y a pas une histoire d'amour dedans qui se met
Pas du tout.
C'est purement et simplement du suspense.
Ça va être vraiment où elle va devoir en fait jouer un jeu d'échecs pour éviter de se faire alpaguer tout en essayant de comprendre d'où vient ces problèmes de choses. Donc c'est du polar sans être du polar. Ça peut être dans le roman noir parce qu'il y a un côté social avec cette famille, ces familles en deuil. Qu'elle manipule pour essayer de garder l'argent, entre guillemets. Et elle-même, effectivement, elle est au bord du craquage, à un moment donné, il y a toute une histoire. C'est vraiment intéressant, et notamment cette fille Zoé, la fille donc, de la truc, qui est effectivement dans le coma, et qui elle-même était un témoin clé, en fait, dans une affaire de meurtre, ou d'accident, entre guillemets, et qui va être transformée en meurtre derrière. Donc voilà, tout
c'est une enquête policière. Quoi,
voilà, c'est vraiment intéressant.
La médium de J.P. Smith,
c'est
chez Gallimard, dans la collection Série Noire, à découvrir, et je peux même vous dire, parce que je l'ai vu justement, c'est au rez-de-chaussée de la librairie Calligramme, mais j'imagine que les 7 libraires indépendants du Lot l'ont aussi, où ils peuvent vous le commander, ça arrive plus vite en ce moment les livres, ça va?
Oui, ça va.
C'est revenu à la normale.
Oui, on est revenu à part un éditeur, mais ça c'est particulier, voilà.
Oui, je pense savoir qui c'est. Allez, prenez du bon temps dans la lecture, et puis on se dit à très vite, Cyril.
Merci.
Il n'y a pas que la cathédrale Saint-Étienne à Cahors, il y a aussi l'église Saint-Barthélemy et son mobilier qu'il faut absolument découvrir, et c'est justement ce que vous propose le service du patrimoine de la ville de Cahors et l'office de tourisme de Cahors, Vallée du Lot, ce samedi, donc demain à 15h, puisque cette ancienne église romane s'appelait avant Saint-Étienne des Soubirous, et du coup, c'était l'endroit finalement où a été baptisé Jacques Duez, membre d'une riche famille de marchands cahorsins, qui est élu pape en Avignon en 1316 à l'âge de 72 ans. Et bien vous allez pouvoir découvrir ce bâtiment tout à fait exceptionnel avec notamment son mobilier qui date du 17e et 18e siècle et qui présente un intérêt patrimonial certain. Pour participer, départ à 15h au pied du clocher de l'église rue Saint-Barthélemy, c'est en haut du boulevard Gambetta si vous ne connaissez pas. 8€ pour les adultes, 6€ en tarif réduit et n'hésitez pas à aller découvrir ce bâtiment comme peut-être vous n'avez jamais vu. C'est donc demain à 15h à Cahors. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On reste ensemble évidemment pour la suite des programmes. Et puis à réécouter d'ailleurs ce magazine à 17h et 21h30. Et d'ici là, dans quelques instants, c'est le journal tout simplement.